RFI 9h30 à Paris, 7h30 en temps universel.
RFI Matin.
L'heure d'un nouveau journal avec vous, Nemo Ampis.
Le FLA, Front de Libération de l'Azawad, parle d'une grande victoire. L'armée, elle, dit avoir pris le dessus après l'attaque d'un convoi de l'armée malienne et de ses supplétifs russes d'Africa Corps dans le nord du pays hier matin. Deux camps qui affirment avoir fait des dizaines de victimes. Tous les détails dans un instant. On vous présente également cette enquête menée par Viginium qui dépend du ministère français de la Défense sur African Initiative, cette agence de presse basée à Moscou, jugée au cœur des activités numériques d'influence russe sur le continent africain. Le Sénégal n'est plus sur la liste des pays à haut risque en matière de blanchiment de capitaux. Cette liste a été mise à jour cette semaine par la Commission européenne, suivant les recommandations du GAFI. De quoi réjouir les autorités de Dakar en recherche de crédibilité financière. La Côte d'Ivoire, en revanche, voit son nom apparaître sur la liste. Et puis nous sommes à Mayotte dans ce journal. Sur place, des centaines de déplacés africains espèrent pouvoir rejoindre la France métropolitaine. Mais 6 mois, jour pour jour, après le passage du cyclone Chido, leurs conditions de vie ne font que se dégrader. Insécurité et insalubrité règnent dans les camps de fortune. Reportage de Lisa Morisseau en fin de journal. À la une donc cette attaque au Mali revendiquée par les rebelles indépendantistes du FLA sur un convoi de l'armée et de ses supplétifs d'Africa Corps qui ont officiellement remplacé ceux de Wagner depuis le week-end dernier. Attaque tôt hier matin alors que le convoi a circulé entre Anéfis et Aguélok dans la région de Kidal dans le nord du pays. De son côté, le Front de Libération de l'Azawad évoque une grande victoire alors que l'armée, qui dans un premier temps a démenti toute attaque, a finalement affirmé avoir pris le dessus. David Baché.
Dans un premier communiqué, hier en début d'après-midi, l'armée malienne a d'abord démenti toute prétendue attaque et dénoncé des informations fallacieuses destinées à instiller la peur et perturber l'opinion publique. 2 heures plus tard, un nouveau communiqué de l'état-major revendiquait au contraire une double défaite infligée à un groupe armé terroriste avec un assaut le jeudi et une riposte fulgurante hier. Le convoi logistique de l'armée malienne et de ses supplétifs russes de l'Africa Corps, que l'armée ne mentionne pas davantage que le groupe Wagner dans ses communiqués, même s'il s'agit désormais d'une force officielle de Moscou, était composé d'une 30aine de véhicules. Après une première attaque à l'explosif artisanal jeudi, les rebelles du FLA ont tiré sur le convoi hier matin à l'arme lourde pendant plus de 2 heures. L'armée a ensuite riposté avec des bombardements aériens, drones, avions de chasse et hélicoptères ont été mobilisés. Les deux camps assurent avoir fait des dizaines de victimes, aucun bilan fiable n'a pu être recoupé. Le FLA revendique également avoir pris possession d'une 15aine de véhicules, dont un blindé et 12 camions. Les rebelles ont diffusé des images de nombreux véhicules détruits ou emportés.
David Baché, à la une également ce rapport de Viginium, le service français de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères, sur African Initiative, une agence de presse au cœur des activités numériques d'influence russe sur le continent africain. Dans ce document, l'organisation qui fait partie du ministère français de la Défense affirme qu'African Initiative a été créée pour reprendre en main le système d'influence numérique mis en place par Wagner sur le continent. Le rapport confirme que les informations publiées en novembre dernier à la suite d'une enquête menée par un réseau de médias dont Radio France Internationale. Il met notamment en lumière ses acteurs et décortique ses méthodes. Plus d'explications avec Vincent Dublange.
African Initiative est née en septembre 2023. C'est une agence de presse basée à Moscou qui publie des contenus en russe, en français, en anglais, en arabe. Le rapport décrit son rédacteur en chef Artyom Kouriev comme suspecté d'être en lien avec les services de renseignement russes. Le document montre qu'African Initiative a été parmi les premiers médias à promouvoir le lancement du groupe paramilitaire Africa Corps. L'unité est présentée comme une opportunité pour l'Afrique, un récit pro-russe publié par le site qui relaie aussi des campagnes de désinformation comme au Burkina Faso où les Occidentaux sont accusés de propager l'épidémie de dengue. L'organisation est présente au niveau local à travers des ONG, des associations pour promouvoir la Russie comme partenaire majeur et pour recruter des influenceurs, des journalistes, des activistes, en particulier au Burkina Faso, mais aussi au Mali où l'association russo-malienne Perspective Sahélienne a annoncé en 2024 la création d'une école de journalisme. Le rapport montre aussi comment les contenus numériques russes sont mis en avant sur le net par la manipulation des algorithmes des moteurs de recherche à l'aide de faux blogs et de faux comptes Twitter. Il nuance tout de même la force de frappe d'African Initiative en pointant les audiences limitées de ces sites.
Merci Vincent Dublange. L'actualité au Niger, le tribunal militaire de Niamey a inculpé vendredi 3 journalistes de la radio Sahara FM d'Agadez après une garde à vue de 40 jours dans les locaux de la gendarmerie d'Agadez puis de Niamey. Le doyen des juges les a accusés d'atteinte au moral des troupes pour avoir relayé un article qui évoquait des informations non confirmées sur une prétendue rupture de la coopération sécuritaire entre le Niger et la Russie. Deux journalistes ont été placés sous mandat de dépôt. La troisième, seule femme du trio, a été remise en liberté provisoire avec interdiction de quitter Niamey. Il l'avait déjà annoncé, il le reconfirme. Non, Patrice Talon ne sera pas candidat à la présidentielle en 2026. Le président béninois quittera bel et bien le pouvoir à la fin de ses deux mandats, comme le veut la Constitution. Le chef de l'État s'est exprimé hier devant l'ensemble des maires et des préfets du pays au palais présidentiel de la Marina à Cotonou. Je crois que je n'aurai plus l'occasion d'avoir une telle rencontre avant de passer la main, a-t-il lancé lors de son discours. La liste des pays à haut risque en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme a été mise à jour cette semaine par la Commission européenne, suivant en cela les recommandations du GAFI, le groupe d'action financière. On retrouve sur cette liste 6 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, l'Algérie, l'Angola ou encore le Kenya. En revanche, plus de Sénégal sur cette liste, une avancée cruciale pour Dakar dans sa quête de crédibilité financière. Dakar où l'on retrouve notre correspondante, Léalisa Vesterov.
Placée sous surveillance renforcée depuis 2021 par le GAFI, la Vigie internationale de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, le Sénégal a dû renforcer sa réglementation ces 3 dernières années. 49 mesures avaient été identifiées par le GAFI, parmi lesquelles réformer le code pénal, mais aussi créer un certain nombre de structures, comme l'Office national de recouvrement des avoirs criminels, mis en service en 2022. Mordiaye, qui la dirige, confirme un gros travail législatif mené par le Sénégal.
Sur le plan législatif, le code pénal et le code de procédure pénale ont été modifiés, notamment pour ce qui est des infractions de financement terroriste, parce que lorsque le Sénégal a été évalué, il y avait des lacunes par rapport à l'incrimination de financement du terrorisme individuel, par exemple. Et donc, cette mesure a été corrigée à travers une réforme de 2021.
Autre mesure, l'adoption en février dernier d'une loi qui a permis de mieux définir ce qu'est le financement d'activités terroristes, tout comme la création d'un parquet financier. Sortir de cette liste noire est une véritable bouffée d'oxygène pour les institutions financières sénégalaises, qui devraient simplifier la levée de fonds pour le pays, comme les transactions bancaires, alors que le Sénégal fait face à une dette abyssale de plus de 100% de son PIB. Le Sénégal qui sera réévalué par le GAFI en février prochain. Léalisa Vesterov, Dakar, RFI.
Et je vous le disais, la Côte d'Ivoire, elle, se retrouve bien sur cette liste des pays à haut risque en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Mais alors, comment le pays s'y est-il retrouvé? Élément de réponse avec Binta Diagne dans un article publié en ligne. C'est à la une de notre rubrique Afrique du site internet RFI.fr. C'était il y a 6 mois, jour pour jour, le 14 décembre dernier. Le cyclone Chido touchait Mayotte et dévastée cette île française de l'océan Indien, Mayotte que de nombreux habitants de l'Afrique des Grands Lacs et de Somalie rejoignent depuis quelques années en espérant pouvoir rallier la France métropolitaine. Mais après la catastrophe, beaucoup y vivent dans des conditions insalubres faute de place dans les centres d'hébergement pour demandeurs d'asile. Notre correspondante à Mayotte, Lisa Morisseau, s'est rendue dans un camp à la périphérie de Mamoudzou où 300 exilés tentent de survivre.
À l'extrémité du camp, des hommes s'activent, ils creusent un grand trou, cela servira de toilette. Il n'y en a pas dans le camp, ni de douche. Chacun fait ses besoins dehors, mais cela met en danger les femmes. Une Congolaise, qu'on appellera Grace, 26 ans, a été agressée dans ce contexte.
Les conditions du camp sont compliquées, surtout pour les femmes. Par exemple, ça peut vous arriver la nuit, vers minuit, vous avez un petit besoin, vous pouvez vous soulager. Tu dois parcourir les risques de sortir dehors. Dans les camps, il y a des hommes, surtout des hommes ne dorment pas, ils passent des nuits à prendre de l'alcool. En étant une femme, je suis exposée involontairement.
Récemment, une exilée a par ailleurs déposé plainte pour viol. Les hommes aussi subissent des violences. Bienvenue, 24 ans.
Ici, il y a des enfants, des adolescents qui nous jettent des cailloux. Chaque jour, il y a des gens qui sont blessés, les autres les ont poignardés. Vraiment, ça fait mal.
Les occupants attendent que leur situation administrative avance. Ils ont demandé l'asile à la France, mais pendant plusieurs mois, la préfecture a été bloquée par un collectif xénophobe. Cela a entraîné d'énormes retards dans le traitement des dossiers. Après avoir fui les persécutions en RDC, jamais Grace n'aurait imaginé que la vie serait aussi compliquée à Mayotte.
On nous avait dit que si vous arrivez à Mayotte, c'est la France, à la France, France, il y a la paix, et il y a la fraternité, l'égalité et tout. En arrivant ici à Mayotte, c'est pas ce que nous vivons.
Actuellement, 600 places d'hébergement sont destinées aux demandeurs d'asile et réfugiés sur le territoire, alors qu'il en faudrait 3000. Lisa Morisseau, Mayotte, RFI.
Radio France Internationale, il est 7h40 en temps universel, comme à Accra, au Ghana, où 12 hauts responsables de l'administration de l'ancien président Nana Akufo-Addo sont accusés de vol, de blanchiment d'argent, d'utilisation d'une fonction publique à des fins privées et d'association de malfaiteurs. C'est ce qu'a révélé hier vendredi le ministre de la Justice. Une enquête a chiffré le préjudice de la fraude à hauteur de 548 millions de cédis, l'équivalent de 53 millions de dollars. Précision depuis Accra avec notre correspondant Victor Cariou.
Une arnaque financière sophistiquée perpétrée pendant 6 années de suite par des hauts fonctionnaires ghanéens. Dans la liste des suspects présentés par le procureur général figure notamment l'ancien ministre des Sports, Mustapha Youssif. Lui, ainsi que 11 autres personnalités, sont accusés d'avoir détourné des fonds publics initialement dédiés aux participants du Service National, un programme qui emploie chaque année des dizaines de milliers d'étudiants à travers le pays. Selon les révélations de l'enquête, les accusés auraient établi un système permettant de créer et d'enregistrer de faux participants au Service National et ainsi de gonfler artificiellement le budget alloué. Une surfacturation qui aurait permis aux hauts fonctionnaires impliqués de détourner plus de 548 millions de cédis de fonds publics, soit 53 millions de dollars. Des pertes qui pourraient même se chiffrer en milliards de cédis, selon le média d'investigation ghanéen The Force Estate, à l'origine des révélations. Depuis la réélection en janvier du président John Dramani Mahama, le pouvoir en place a lancé plusieurs dizaines de procédures judiciaires à l'encontre de responsables de la précédente administration. Victor Cariou, Accra, RFI.
À Accra, il est 7h42, l'heure de vous repasser la main, Julien Coquelroem.
Et merci Nemo Envis, très bonne journée à vous.